Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Dieu crève l'écran, repère spirituel en temps d'hyperconnexion. Face à la multiplicité des écrans et à la place qu'ils ont prise dans notre vie, l'invité de Vivante Église nous enjoint de prendre du recul pour comprendre les enjeux de notre rapport au numérique et ainsi laisser Dieu crever l'écran. Et pour ce sujet passionnant, nous sommes avec le frère Jean-Alexandre de Garidel. Bonjour frère.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de cet ouvrage tout récemment paru aux éditions du Carmel, « Dieu crève l'écran, repère spirituel en temps d'hyperconnexion ». Vous êtes carme au couvent d'Avon et vous êtes de passage dans notre région pour donner une conférence sur ce sujet. Merci en tout cas de faire ce petit passage par Radio Présence. Avant que nous rentrions dans le cœur de votre livre, j'aimerais que vous nous en révéliez la genèse. Vous avez été engagé pendant quelques années dans la pastorale des jeunes. Vous êtes actuellement maître des novices, donc on peut dire que vous êtes en lien avec cette génération connectée, la génération Z. Qu'est-ce que l'observation de tous ces jeunes vous suggère ?
Mais ça me suggère qu'il faut accueillir ce que cette jeunesse porte, qui est un grand désir et une grande espérance, et aussi peut-être une confusion entre ce que j'appelle la vie et la connexion. Et voilà, ce qui me semble important dans ce que j'ai pu constater, à la fois dans ces jeunes-là, mais aussi dans ma propre réflexion et dans ma propre maturation, c'est qu'il y a besoin de distinguer les plans, et de découvrir qu'on peut, et que la vie fait que nous avons besoin d'être connectés d'une certaine manière, mais n'étant pas dans l'illusion de confondre les deux, c'est-à-dire de dire je peux vivre et je peux être vivant sans être connecté. Et voilà, donc ça, je pense que c'est un élément éducatif de façon générale, mais notamment pour la vie spirituelle extrêmement important, parce que ça touche la question de qu'est-ce qui me fait vivre. Est-ce que c'est les connexions avec les autres, ou avec les écrans, et donc l'image que je peux générer de moi-même, ou est-ce que ce qui me fait vivre vient plutôt du dedans, c'est-à-dire de Dieu, de la vie spirituelle, de quelque chose qui est de l'ordre de la vie intérieure et qui inverse profondément notre mode de fonctionnement, selon que je tire ma vie d'un autre mais qui est présent en moi, ou que j'attends des autres de me faire vivre. Et l'expérience, je crois, se vérifie dans l'expérience de la déconnexion. Que se passe-t-il quand je suis déconnecté ? Est-ce que c'est l'angoisse profonde voilà, où je me découvre qu'en fait, non, je peux vivre un temps raisonnable dessus.
Vous ne proposez justement pas dans votre livre une déconnexion au numérique étape par étape, comme d'autres auteurs le font. C'est plutôt un chemin d'enracinement spirituel basé sur 10 thèmes différents. Et pour chacune de ces thématiques, vous posez des questions qui viennent interroger chacun sur sa pratique numérique, mais aussi sur sa vie spirituelle. Vraiment, vous liez les deux et vous espérez que cette prise de conscience permettra de s'ouvrir à la grâce. Frère Jean-Alexandre de Gabriel, vous invitez à mesurer les véritables enjeux de notre vie. Et cette étape demande un certain effort. En quoi cet effort a-t-il un lien avec l'usage des écrans ?
Je pense que cet effort, il est un effort de réflexion, et donc il suppose du temps, qui suppose un recours à notre intelligence et une résistance à l'idée d'aller tout de suite vers ce qui est facile. Alors, c'est vrai que la nature humaine a une pente particulière pour aller vers la facilité et l'immédiateté est plus grande. Or, je pense que nous avons besoin aujourd'hui, il y a quelque chose d'une sorte de réflexe un peu vital, à prendre du recul pour se demander et prendre le temps de se demander qu'est-ce que je fais quand je passe autant de temps sur les écrans, quelles conséquences cela a pour moi, pour ma famille, pour ma vie intérieure. Donc c'est là où c'est un effort, parce que encore une fois, ça suppose de sortir du lot, de prendre du temps et de faire fonctionner ses méninges, ce qui est tout à fait le fonctionnement inverse, en tout cas actuel, d'Internet, qui fonctionne davantage sur la dimension de la séduction, voire de l'addiction.
Récompense.
De la récompense, et on sait bien que c'est un système d'abord économique, qui aurait pu être autre, mais il est comme ça. Donc il s'agit d'aller un peu à contre-courant de soi et de ce vers quoi on est poussé. Donc ça n'a rien de naturel. Mais pour moi, c'est de l'ordre un peu de résistance et de la vie qui est importante.
Oui, c'est ça. En fait, vous écrivez que les écrans ne sont pas neutres pour notre vie humaine. Nous ne sommes pas totalement libres.
Oui, tout à fait. Alors ça, je pense que... Je me semble que cette année, on en prend davantage conscience dans les différentes publications. Mais avant, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire qu'il y avait encore ce discours très un peu naïf sur la technique. Alors, toute technique, c'est un vaste sujet, mais en tout cas, ce qui est particulier à ces nouvelles techniques-là, ce sont des techniques qui sont portées par des entreprises dans un but commercial, et qui a pour but de nous faire consommer. Voilà. Donc c'est
et
pas
récolter des données.
Exactement, récolter. C'est pas comme un marteau ou comme un. Voilà, il y a différents types d'outils. Là, on est aussi dans une culture qui est portée. Voilà, une culture portée par une culture de l'argent. Donc, croire que je suis totalement libre par rapport à ces instruments qui vont chercher en moi des lieux de passion et d'addiction, c'est un peu naïf, disons.
Mmh. Et pourtant, sur Internet, on trouve aussi des contenus qui sont très bien hein, pour nourrir sa foi, prier, se former. Là, on peut imaginer qu'il n'y a pas un enjeu commercial. Et pourtant, est-ce que ces propositions ont des limites, à votre avis ?
Ben, je pense qu'en tout cas, elles sont illites. Enfin, en tout cas, ma réflexion dans ce livre, elle part aussi de mon expérience personnelle hein, d'usage apostolique d'Internet où j'ai contribué à lancer il y a une quinzaine d'années les retraites en ligne pour le Carême et l'Avent avec le Carmel, qui continue aujourd'hui et s'est diffusé à 100 000 personnes en 10 langues. Hein, donc je suis vraiment témoin du bienfait, la démultiplication qu'apporte Internet et notamment sur la dimension apostolique et d'évangélisation. De cela, je suis convaincu. Mais donc l'important, c'est de pouvoir faire un discernement sur, d'une part, ce qui est bon et ce qui est moins bon sur Internet, premièrement, et deuxièmement, ce qui m'aide ou ne m'aide pas. Et donc là, on ne peut pas faire de règles générales, mais je pose un peu la question du rapport à la paresse spirituelle, de voir ce qui, aujourd'hui, m'aide dans la vie spirituelle, dans les contenus sur Internet, des podcasts, des textes ou de la musique, de louanges, ce genre de choses. Cela peut m'aider. Mais si c'est simplement pour faire fonctionner une sorte de ronron, bon, voilà. Là, du coup, l'outil, au lieu de m'aider et d'être un instrument, devient une sorte un peu de
oui, doudou.
De doudou, oui, très bien, si vous voulez.
Oui,
tout à fait.
Ça,
voilà. Voilà, ça, c'est intéressant.
Oui, oui, oui. Vous invitez ensuite à une nécessaire prise de conscience de la place qu'ont pris les écrans dans notre quotidien. Et cela passe par un arrêt de toute urgence. Que suggérez-vous pour prendre du recul, hein, frère Jean-Alexandre ?
Mais je parle un peu de rituel hein, dans ce chapitre, hein, sur le rapport au temps, et donc de rituel personnel et collectif, que ce soit en famille, en communauté ou autre, c'est-à-dire qu'il est absolument, je pense, indispensable, personnellement, d'ordonner davantage son temps et de faire l'expérience, idéalement quotidienne, mais en tout cas au moins la semaine, ou voire une fois par mois, de vivre un temps sans les écrans pour retrouver... des choses qui sont importantes dont je parle dans le chapitre sur le corps notamment, retrouver un rapport à mon corps, à ma respiration ou à un certain nombre de choses qui ne sont pas impliquées dans mon rapport au monde et dans le rapport aux écrans de la même façon. Voilà, si je passe un certain nombre d'heures par jour sur mon ordinateur, sur mon téléphone, eh bien je vois le monde à travers ces écrans, disons. Eh bien, c'est un rapport au monde qui est appauvri dans l'expérience des sens, notamment. Voilà. C'est principalement la vue qui est sollicitée, éventuellement touchée sur mon téléphone, mais c'est quelque chose de très pauvre.
Voilà. Donc, oui, puis toucher, c'est toujours le même mouvement. Hein.
Exactement, c'est le mouvement, c'est la même matière.
Oui, la même matière.
Donc, vous voyez, il y a un appauvrissement de l'expérience sensible du monde qui est très forte. Et donc ça, il faut vraiment qu'on puisse se dire, mais en discutant notamment avec les générations peut-être plus âgées, comment se rend compte qu'on peut vivre autrement. Voilà. Je dis bien, il ne s'agit pas de diaboliser les écrans, il s'agit de les intégrer à leur juste place. Mais pour ça, il y a besoin d'un pas de recul.
Et ce pas de recul permet sans doute d'expérimenter l'ennui. On dit que les enfants, maintenant, ne savent même plus s'ennuyer.
Oui, tout à fait. Et on sait bien qu'au niveau éducatif et même au niveau des neurosciences, hein, qui le montrent assez bien, l'ennui fait partie aussi de l'ouverture de l'imagination, de la créativité, du recul, de la réflexion. Hein. Et donc, ce n'est pas agréable de s'ennuyer, mais en fait, c'est quelque chose qui est sain et normal. Ouais, et on fait aussi l'expérience dans la vie de prière, d'ailleurs.
Oui. Ah oh, oui. Ouais,
donc, le rapport au vide, à l'ennui, etc., ne sont pas des temps... on parle de temps mort, et c'est horrible. Hein, ce ne sont pas des temps morts, justement, pour notre vie. Non, c'est des temps différents, voilà, comme dans l'expérience de la nature, où on a l'impression que l'hiver, il ne se passe rien. Il se passe rien à l'extérieur, mais en fait, à l'intérieur, ça travaille. Voilà. Et je pense que dans la vie humaine et dans la vie spirituelle, il y a quelque chose d'un autre ordre aussi. C'est pas parce que je n'ai rien à faire qu'il ne se passe rien en moi.
Oui, c'est ça. Et c'est important de se le dire. Frère Jean-Alexandre, vous avez parlé de ce rapport au temps. Et donc, vous écrivez que l'évolution technologique transforme non seulement notre rapport au temps, mais vous dites qu'elle transforme aussi l'espace, notre rapport à l'espace. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point ?
Oui, alors bon, le rapport à l'espace, il est déjà... transformé par l'évolution des moyens de transport hein, en l'espace d'un siècle. Donc ça, c'est une évidence, mais c'est important de le rappeler. La perception que nous avons de l'espace aujourd'hui. Voilà, je suis venu en train aujourd'hui depuis Paris. Toulouse me semble proche. Et puis dans le train, des jeunes qui étaient avec moi parlaient de voyages qu'ils faisaient. C'était des influenceurs, d'ailleurs, c'était marrant. qui parlaient de voyages qu'ils faisaient à l'autre bout du monde. La perception de ces lieux semble très, très proche. Voilà. Et donc, à travers les écrans et l'expérience, par exemple, de visioconférence qui a commencé par Skype ou autre, quand on a une famille qui est présente aux États-Unis, par exemple, ou dans d'autres lieux, eh bien, nous avons l'impression d'une proximité plus grande, qui est formidable à certains égards.
Oui, il ne faut pas le nier.
Tout à fait, mais qui peut être trompeuse aussi sur le rapport à la réalité, sur les questions aussi écologiques. Voilà. Donc là, voilà, notre rapport au temps à l'espace aujourd'hui, en 2025, disons, est profondément différente de celle d'il y a un siècle.
Oui, ça c'est évident.
Il faut bien le mesurer. Donc ça a des conséquences anthropologiques. Et ça a des conséquences, je pense, sur notre compréhension de ce que sont les limites humaines, voilà, dans rapport à l'espace et au temps. Et qu'aujourd'hui, on a un peu cette illusion développée notamment par le transhumanisme, voilà, d'un dépassement toujours plus loin de nos limites.
De toute puissance.
De toute puissance. Mais en fait, ce qui est, je crois, là, c'est une pensée personnelle, disons, mais qui est une forme d'aliénation, en fait. C'est-à-dire, si je dois sortir de mon humanité par le dépassement des limites, en fait, je ne suis plus humain. Et en tout cas, dans une perspective chrétienne, je sors du dessein de Dieu.
Oui.
Donc, quelque chose qui est violent, en fait. Ouais. Ouais. Hartmut Rosa, que je cite dans le livre, qui est un sociologue allemand, philosophe, dit bien, oui, il y a un processus d'aliénation dans ce que nous vivons, dans le rapport au temps aujourd'hui, qui nous malmène. Voilà. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'arriver à sortir un peu de ce cycle qui fait mal, en fait.
Mmh. Oui, c'est ça. Sainte Thérèse d'Avila, que vous citez dans votre livre, dit « entrer à l'intérieur ». Pour gagner en liberté intérieure, il faut qu'on fasse, en fait, l'ascèse de notre affectivité.
Ouais.
Et donc, comment ça se fait vis-à-vis de cet usage des écrans ?
Et justement, je pense que ça se fait vraiment par une déconnexion. C'est-à-dire que voilà, j'ai besoin, les écrans sollicitent énormément mon regard et mes yeux, mais au détriment d'un regard porté sur l'intérieur, puisque Thérèse d'Avila parle beaucoup, comme d'autres spirituels et d'autres mystiques, de l'image du regard pour parler de la vie intérieure. Or, je ne peux ouvrir mes yeux à l'intérieur que si je les ferme à l'extérieur, en tout cas pendant un temps de prière, et de découvrir qu'il y a en moi, comme dit Sainte Thérèse, un monde, un univers fantastique. J'utilise dans le livre l'image de la plongée sous-marine pour découvrir des océans qui sont magnifiques, mais souvent qu'on méconnaît, et qu'en nous, c'est quelque chose de cet ordre. Elle utilise, l'image du château de cristal,
château
avec
intérieur,
de la lumière.
Ouais.
Donc, il y a une beauté en nous, et quel drame, et je pèse mes mots, quel drame de passer à côté en étant simplement captivé, fasciné par
ce qui est à l'extérieur.
Par l'extérieur, notamment par ces écrans qui ont cette particularité d'avoir une luminosité et des images qui nous fascinent, qui nous absorbent, ça devient des idoles. Mais en fait, la grande question, c'est mais tout le temps que je passe face à ça, je ne le passe pas en moi, et donc je n'habite pas mon humanité. Et si je pousse un peu les choses, du coup, je passe à côté de ma vie, de ce que je suis en profondeur. Et en fait, le grand mot, c'est un peu, mais quel gâchis. Voilà, quel gâchis. Donc il ne s'agit pas d'un jugement moral de dire c'est bien ou c'est pas bien de façon un peu générale et abstraite, mais de dire quel dommage, et ce que disent un peu tous les saints du Carmel, de savoir que nous avons une telle richesse en nous, donnée par Dieu, révélée par l'Église, passionnante, fantastique, qui nous donne un enracinement, et que nous sommes comme des zombies scotchés aux écrans, si je puis dire. Et en fait, du coup, on rate quelque chose, quoi.
Et déconnecté de cette intériorité.
Déconnecté de cette intériorité. Et puis, comme je dis, on n'a qu'une seule vie. Hein.
Oui.
On n'a qu'une seule vie. On ne peut pas faire CTRL-Z. Il n'y a pas de réversibilité. Donc, prenons le temps de réfléchir à ce que nous vivons.
Et oui, c'est ça. C'est le moment de s'arrêter et de bien prendre conscience de cette utilisation. La recherche de la liberté véritable est une grande aventure. Elle est liée à la place accordée au désir, écrivez-vous. Il nous faut réveiller les grands désirs qui dominent les envies égoïstes pour accéder à la liberté véritable. J'aimerais bien que vous nous précisiez de quelle liberté il s'agit.
La liberté véritable, dans la pensée de Sainte Thérèse, elle rejoint profondément celle dont nous parle Saint Augustin, c'est-à-dire cette liberté d'être libéré de soi, c'est-à-dire de son moi égoïste, qu'elle a elle-même expérimenté, d'être quelqu'un qui était particulièrement brillant et fascinant, mais qui ramenait beaucoup de choses à elle-même et qui a été profondément délivré de son ego pour être au service du royaume. Et c'est de cela dont il s'agit, c'est de pouvoir accéder. Elle a une anthropologie qui est profondément humaniste et et qui est enthousiasmante pour nous. Elle dit « partez de votre désir », c'est-à-dire ce qui est plus profond en vous, de ce qui vous entraîne vers ce qui est bien, vers ce qui est grand, ce qui va accomplir votre personne. Et pour ça, ça suppose de faire la différence entre désir et envie superficielle. Mmh. Et une fois que vous partez dans ce désir-là, vous pouvez aller vers un chemin de liberté qui va passer par des exercices, une ascèse. Et cette liberté-là, elle a un goût, elle donne une joie, une force, qui fait que quand on a goûté cette liberté-là, pour rien au monde, on ne reviendrait à ce qu'on appelle liberté de faire ce que j'ai envie de faire, mais qui est extrêmement pauvre, en fait.
Oui, et qui est une liberté mal comprise, en tout cas.
Mal comprise, et en fait, qui ne rend pas heureux.
Oui.
Qui rend seul. Voilà. Qui rend seul. Je suis libre de faire ce que je veux, donc je ne m'engage pas, mais au bout du compte, en fait, je suis seul. Et c'est ça, la grande contradiction de notre temps, pour moi, c'est cette injonction complètement contradictoire de « soyez libre », et la plus grande peur des gens aujourd'hui, c'est de finir seul. Mmh. Oui, mais les deux vont ensemble. Si je prends tous les moyens pour éviter les engagements affectifs, etc., pour préserver ma liberté, ben, concrètement, je finis seul.
Oui, c'est ça. Et aussi, autre contradiction, c'est cette façon d'être connecté en permanence, où on a l'impression de ne pas être seul, mais finalement, on l'est.
Oui, tout à fait. Voilà, c'est une sorte de relation extérieure superficielle à minima. Mais en fait, les relations, elles n'engagent pas de profondeur. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui va un peu décevoir ou des conflits d'intérêts, en fait, la relation, elle va tomber, quoi.
Mmh. Oui, c'est ça. Grandir en liberté, se défaire de ses liens, ça passe par le recueillement. Qu'est-ce qui permet exactement ce recueillement ?
Alors, ce recueillement, dans la tradition spirituelle, qu'on trouve à la fois dans la tradition franciscaine, dont Sainte Thérèse d'Avila hérite, et puis au Carmel, tel qu'elle le développe, il y a cette double idée de retrait, hein, se retirer, le mot de retrait, et de rassemblement, et rassembler son intériorité, sa vie intérieure, vers le centre de l'âme ou le cœur, et qui est le lieu un peu de la force, hein, qui est le lieu de Dieu. Et donc, tout dans la tradition biblique, mais aussi la tradition spirituelle, cette idée de quand je me recueille, je ne me recueille pas vers mon moi, mais vers Dieu qui est présent au centre de moi. Et donc, en fait, c'est là le lieu le plus profond de ma personne. Et dans ce chemin-là, en fait, je vais grandir dans la vertu de force, et je vais grandir dans la une forme de possession de soi-même, au sens positif et noble du terme, qui va me rendre plus libre, en fait, plus autonome, au sens d'une vraie autonomie, de vouloir échapper un peu à mes addictions et puis à mes passions. Et donc c'est là où la distance se fait par rapport aux écrans, c'est dans ce mouvement de recueillement, donc de retrait et de rassemblement, qui va me permettre d'être davantage moi-même en présence de Dieu et de l'Esprit-Saint, et donc me donner un usage, une pratique des écrans, qui va être un peu plus ajusté, hein, et plus à distance, et moins addictive, ou moins aliénante.
Mmh. Oui, parce que cette relation avec Dieu, vous l'appelez amitié unique.
Mmh.
Et donc, ça montre bien que c'est une amitié à double sens,
oui.
Et une amitié qui nourrit.
Tout à fait. Et même qui porte, voilà, qui porte dans l'être, si je peux dire. C'est-à-dire qu'il y a... j'utilise aussi l'image de l'enracinement, c'est cette idée de il y a quelque chose qui me fait être, qui n'est pas abstrait, puisque c'est une relation d'amitié où je donne et je reçois. Et parce que j'ai en moi cette expérience, cette sécurité affective qui m'est donnée dans la grâce de cet amour de Dieu, eh bien, ça me pose dans la vie avec une sorte de d'enracinement, d'assise, de densité intérieure, qui fait que dans mon rapport au monde en général, et notamment via les écrans, ben, j'attends moins des écrans ou du monde ce qu'ils ne peuvent pas me donner.
Oui.
Ce qui, lorsqu'on n'a pas cette expérience un peu de plénitude, etc., ben, fonctionne dans le sens inverse. C'est que je vais passer mon temps dans les relations avec les autres ou avec les écrans en particulier à aller mendier une sorte d'affection sans fin que personne ne va pouvoir me donner et qui va faire que je vais aller de déception en déception.
Oui, c'est un attachement qui n'est pas ajusté.
Voilà, et qui, en fait, qui rend malheureux.
Et qui rend malheureux, oui. Vous avez un petit passage dans votre ouvrage sur la musique, parce que vous dites que la musique, maintenant, on peut l'écouter partout, on peut l'écouter tout le temps, on choisit exactement ce qu'on veut. On pourrait se dire, bah, c'est bien, la musique, vous parliez de la louange, c'est bien, par exemple, pour se mettre en prière ou pour avoir un temps d'action de grâce. Mais pourtant, ça peut gêner aussi le silence et l'empêcher même.
Oui, tout à fait. Mais je suis assez frappé par ça, cette évolution de la place de la musique. Alors, les moyens techniques le permettent, hein, au fur et à mesure iPod, etc. Donc c'est très intéressant, mais on voit bien qu'aujourd'hui, on est passé à la musique d'ambiance. Voilà, comme si on a besoin d'être porté par une sorte de bulle musicale perçue par un... Enfin, qui nous protège du monde hostile, hein, c'est ça. On a aujourd'hui beaucoup ça, c'est le monde est dur, et de fait, il l'est, et de plus en plus agressif. Et personne ne peut le nier, donc c'est pas facile à vivre. Donc on a besoin de se protéger parfois de ce monde qui est jugé comme agressif. Donc on se crée cette bulle-là de musique qui me correspond. Donc, c'est bien humain, évidemment, comme expérience, et il ne s'agit pas de dire que c'est mauvais en soi. Mais le problème, c'est que si je m'enferme dans cette sorte de bulle-là, je me coupe aussi d'une forme de réalité. Et surtout, je peux me couper aussi d'une forme d'intériorité. C'est qu'il y a, il y a une écoute de la musique qui me permet de descendre en moi-même, d'accéder à quelque chose de grand, voilà, de vivre des émotions qui sont belles, qui sont grandes.
Par exemple
Je sais pas, moi j'aime soit des, enfin je parlais de chants de louange, où on va écouter des poésies de Thérèse, c'est-à-dire la pause musicale, ou de la musique classique, moi j'aime beaucoup Beethoven par exemple, qui émeuvent quelque chose, mais vous voyez, il s'agit de choisir ce que je vais écouter parce que ça correspond à un besoin intérieur, voilà, et qui ça émeut. Et puis il y a d'autres moments où c'est vraiment de la musique de consommation qui va toucher mes envies les plus superficielles et qui me protège, et à ce moment-là, cette musique-là, elle me fait pas grandir en fait. Mmh. Voilà. Ou je me laisse porter, comme on dit. Voilà. Aujourd'hui, on choisit plus la musique. On choisit pour vous, c'est sympa.
C'est vrai.
Mais quand est-ce qu'on est acteur, quoi ?
Oui, quand est-ce qu'on est acteur ? Et justement, être acteur, c'est aussi faire un travail sur son intelligence.
Oui, tout à fait. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça rejoint la première question, il me semble, que vous posiez sur la réflexion et l'effort. Mmh. C'est que ce bombardement d'images et de sons extrêmement présent aujourd'hui, on a besoin de distinguer les choses, de nommer. La place du langage est extrêmement importante pour ne pas être dans la confusion. Et puis de voir dans une perspective chrétienne, ce que je crois, c'est qu'au fond, notre foi chrétienne, la révélation chrétienne, vient nous donner aussi un certain nombre de repères pour mieux vivre, pour être un peu plus au clair, et pour exercer un esprit critique sur notre temps. Un esprit critique, ce n'est pas pour dire le monde est pourri, rien ne va, mais justement pour exercer un vrai discernement sur ce que nous avons à vivre dans ce monde, avec à la fois une mention apostolique, et nous avons besoin de religieux, de prêtres et de laïcs qui sont engagés sur le numérique, sur les écrans, pour l'évangélisation, l'écoute, etc. Mais aussi besoin d'un enracinement et d'une distance pour ne pas suivre le monde dans tous les sens.
Oui, c'est ça. Prendre conscience de la place du numérique dans sa vie, s'arrêter, donner la priorité à la vie intérieure, c'est donc ce que vous proposez dans la première partie de votre livre. Frère Jean-Alexandre de Garidel, je vous propose de nous arrêter quelques instants. Vous nous direz juste après comment prier et trouver l'unité intérieure afin de trouver sa juste place dans le monde. Je vous propose d'écouter « Ma vie n'est qu'un instant » interprété par Pierre Eliane.
Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, oh mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Oh, je t'aime, Jésus, vers toi mon âme aspire. Pour un jour seulement, reste mon doux appui. Viens régner dans mon cœur, donne-moi ton sourire, rien que pour aujourd'hui. Que m'importe, Seigneur, si l'avenir est sombre, te prier pour demain, oh non, je ne le puis. Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ton ombre, rien que pour aujourd'hui. Si je songe à demain, je crains mon inconstance, je sens naître en mon cœur la tristesse et l'ennui. Mais je veux bien, mon Dieu, l'épreuve, la souffrance, rien que pour aujourd'hui. Je dois te voir bientôt sur la rive éternelle, oh, pilote divin dont la main te conduit. Sur les flots orageux guidant paix ma nacelle, rien que pour aujourd'hui. Seigneur, me cacher en ta face. Là je n'entendrai plus du monde le vain bruit. Donne-moi ton amour, conserve-moi ta grâce, rien que pour aujourd'hui. Près de ton cœur divin, j'oublie tout ce qui passe. Je ne redoute plus les craintes de la nuit. Ah, donne-moi Jésus dans ce cœur une place, rien que pour aujourd'hui. Pain vivant, pain du ciel, divine Eucharistie, ô mystère sacré que l'amour a produit. Viens habiter mon cœur, Jésus, ma blanche hostie, rien que pour aujourd'hui. Daigne m'unir à toi, vigne sainte et sacrée, et mon faible rameau te donnera son fruit, et je pourrai t'offrir une grappe dorée, Seigneur, dès aujourd'hui.
Présence. Église, Isabelle Duché.
Dieu crève l'écran, repère spirituel en temps d'hyperconnexion. Nous sommes avec l'auteur de ce livre, le frère Jean-Alexandre de Garidel, carme au couvent d'Avon et de passage dans notre région pour donner une conférence sur ce sujet. La vie spirituelle concerne toute notre personne, notre corps, notre cœur et notre esprit. Et vous constatez, je vous cite, que notre ère est marquée par le travail désincarné et le déni corporel. Comment le numérique vient-il séparer les trois, et comment, à l'inverse, réparer cette séparation ?
Oui, je pense que de manière générale, le XXe siècle a marqué un changement profondément dans le rapport au travail. On voit bien sur le secteur primaire, secondaire et tertiaire. Et donc, avec les écrans et Internet, c'est encore plus grand. Ce qui fait que beaucoup d'entre nous, et je m'inclus dedans, l'expérience que nous avons, et notamment les plus jeunes, c'est que notre rapport au corps est de plus en plus appauvri dans l'expérience sensible. Et que notamment notre manière de travailler fait que peu de sens sont sollicités. Alors, je prends l'exemple du goût, par exemple.
Il y a peu de chance.
Et on parlait tout à l'heure du toucher. Le toucher, c'est quand même un lieu extrêmement intéressant, extrêmement riche dans l'expérience de la matière, disons.
Et la connexion au monde aussi.
La connexion au monde, tout à fait, être touché et touché. Or, effectivement, avec l'écran, je peux avoir l'impression de toucher, mais en fait, je touche toujours la même matière qui me renvoie à des éléments très différents. Donc ça, quand même, ça conduit à quelque chose qui est quand même et qui est constaté de façon assez générale au-delà de l'Église par un phénomène de désincarnation, mais qui est aussi voulu par un certain nombre d'idéologues, je pense au courant transhumaniste, qui en fait quelque chose d'assumé, c'est-à-dire que le corps y est considéré comme un obstacle à l'accès à une sorte de vie indéfinie. Je dis dans le livre, et évidemment, je suis pas le seul qu'on retrouve dans le transhumanisme des choses qui correspondent à ce qu'on appelle la gnose, c'est-à-dire des courants et d'hérésie chrétienne des premiers siècles, ou dans d'autres approches, qui méprisent profondément le corps et la chair.
Où le corps empêche d'être heureux, finalement.
Voilà, le corps empêche d'être heureux et d'accéder à un dépassement, justement, d'une vie illimitée. Le corps est assuré à la limite, est assimilé à la limite, donc il faut le dépasser. Et donc il y a vraiment un enjeu, je pense, notamment pour les plus jeunes générations, mais c'est vrai de toute génération, de nous rendre compte que plus nous sommes engagés dans les écrans, etc., plus nous avons besoin aussi de retrouver un rapport au corps qui soit bien pensé, c'est-à-dire l'exercice physique, aussi dans la prière, de bien vérifier que nous ne prions pas avec notre tête, mais avec tout notre être, c'est-à-dire corps, âme et esprit, toutes les dimensions de notre être. Et c'est important, effectivement, dans notre foi catholique occidentale, de retrouver des approches toutes simples de la prière par la respiration de souffle, dont on dit souvent c'est dans la méditation de pleine conscience ou d'autres approches de l'extrême-orient que c'est présent. Mais en fait, on a un peu oublié que dans la tradition orthodoxe, notamment, ou en tout cas de l'Orient chrétien, bien, il y a toute une tradition de la prière du cœur, notamment, on évoque la parole de Jésus, Seigneur, ou d'autres mots, d'ailleurs, la parole de Dieu, mais Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur, avec la respiration.
Oui, c'est calé sur l'inspiration.
C'est calé sur la respiration, inspirer, expirer. Et qui fait que du coup, la prière devient quelque chose aussi de physique, voilà, où j'engage mon corps. Et donc ça, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très simple, mais qu'en tant que chrétien, nous pouvons retrouver tout simplement, pour faire de le lieu de la prière, ben, un lieu où on va retrouver un contact avec notre corps, notre respiration, qui va justement rééquilibrer notre expérience des écrans voilà, par contraste. Et cette expérience du corps nous permet ensuite, par la respiration notamment, de descendre à un niveau plus profond. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit, je remets mon souffle, c'est le même mot en hébreu et en grec, pour descendre dans cette présence du Seigneur qui est présent au milieu de moi. Et l'accès à cette profondeur me permet ensuite de mieux gérer mon rapport aux écrans. Voilà. Donc on a vraiment, je pense, un enjeu particulier dans ce rapport au corps. Et là, je pense que en fait, la foi chrétienne a quelque chose à dire à notre... Voilà, parce que... Aujourd'hui, qu'est-ce qui est proposé ? Alors ici, il y a des formes de méditation, c'est vrai, qui peuvent exister. Mais voilà, on est quand même dans un monde qui se prétend très libre dans le rapport au corps, notamment la dimension de la sexualité, du genre, etc. Mais en réalité, complètement désincarné, parce qu'il y a cette idée que le corps, c'est comme quelque chose qui est extérieur à moi-même, oui. Que je peux changer, modifier selon mes envies. Donc c'est aussi là aussi tout à fait aliénant.
Vous dites que la foi chrétienne a quelque chose à apporter, justement, de spécifique pour cette unité corps-cœur-esprit. Mmh. On pense par exemple au sacrement.
Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment un point d'insistance particulier dans la foi catholique, sur la place des sacrements. Et notamment d'un point de vue spirituel, c'est de nous rappeler que Dieu vient à nous par notre corps. C'est quand même incroyable. Hein. C'est très humble, c'est très pauvre. On aurait imaginé une sorte de connexion... par Bluetooth ou je ne sais quoi à Dieu, eh bien non, ça passe par le corps au sens physique, par le corps mystique qu'est l'Église et de rencontrer d'autres. Donc cette dimension du corps, elle est extrêmement présente dans la foi chrétienne et elle fait l'unité entre la personne, la communauté qui est le...
Oui, c'est ça, on n'est pas chrétien tout seul. Hein.
Chrétien tout seul, les membres les plus pauvres du corps que sont les plus pauvres et les plus souffrants. Et donc il y a une vraie cohérence, vous voyez, du rapport au corps dans la foi chrétienne qui me semble très... Un très bon remède, en tout cas aux dérives actuelles dans le rapport au corps, à la fois le corps individuel, le corps social, qui est souvent un peu appauvri par rapport à l'individualisme. Mais oui, cette idée des sacrements est toute simple, hein, c'est-à-dire Dieu me touche par mon corps, dans l'Eucharistie, dans l'onction des malades, l'huile, dans le baptême, l'eau. Voilà, mon corps n'est pas quelque chose de mauvais ou que je devrais négliger dans ma vie spirituelle.
Mmh, oui, et puis puisque vous parlez de ce corps qui inclut les personnes fragiles, les personnes malades, etc., là aussi, pour se reconnecter, c'est prendre soin les uns des autres.
Oui, tout à fait. De la charité. Alors, voilà, et ça, je pense que c'est important parce qu'il y a un des points aveugles souvent des réseaux, c'est qu'il y a quelque chose d'excluant. De plus en plus, les réseaux fonctionnent avec les gens qui nous ressemblent, puisqu'ils sont là pour nous flatter et nous faire vendre les choses. Et donc, en fait, on est mis à distance des gens qui nous dérangent, et notamment les personnes qui sont plus pauvres, qui sont laides, etc., et qui sont dans la précarité et qui ne nous flattent pas. Et donc là, il faut faire un effort considérable pour dire, en plus, je le sais, le Christ est présent de manière plus particulière dans les plus pauvres et les plus souffrants. Et donc, c'est en allant vers eux que je rencontre aussi le Seigneur et le Christ. Et de cela, même si certains réseaux peuvent y aider, hein, il ne faut pas généraliser, mais il faut quand même que je fasse effort pour en sortir.
Mmh. Oui, il y a aussi une tradition de l'Église, c'est la vénération des reliques. Là aussi, on a un moyen de rassembler, de faire l'unité.
Tout à fait. Et on voit bien que d'ailleurs, les plus jeunes générations sont particulièrement sensibles à ce rapport au corps, dont ils ont peut-être encore plus besoin que les générations précédentes par rapport à des générations qui ont un peu méprisé les dévotions populaires ou un certain nombre de choses, en pensant qu'on était un peu libéré de ça. Au fond, c'était un peu, je pense, une forme de mépris inconscient.
De snobisme.
Voilà, de snobisme. Et en fait, les plus jeunes générations qui, elles, sont profondément connectées dans les écrans, ont un besoin presque viscéral d'un rapport au corps et que la foi passe par le corps. Et je pense que du coup, dans l'adoration du Saint-Sacrement, dans la procession des reliques, on va accueillir les reliques de la petite Thérèse à la fois à Avon et à Paris à mi-octobre. Eh bien, c'est assez frappant de voir cet attrait qui peut effectivement tomber dans des formes de superstition, mais plus profondément, ça nous dit le mystère de l'incarnation. Dieu nous touche par notre corps parce que Dieu a assumé un corps, Donc, ne rêvons pas d'aller à Dieu sans ce corps,
oui, oui,
et sans le
ça.
Corps des autres.
Oui, 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 bien sûr. Avec la multitude des contenus numériques, le risque est grand de nous disperser. Comment peut-on parvenir à l'unité de tout notre être, et notamment avec notre mémoire, avec tout ce qui nous constitue?
Oui, je pense qu'effectivement, on parlait tout à l'heure de recueillement. Donc, le recueillement, c'est le rassemblement pour aller vers l'unité de notre être, vers quelque chose qui est profond. Et j'attire l'attention dans le livre sur la place de la mémoire qui est souvent peu pensée aujourd'hui et qui me semble un lieu clé, puisque beaucoup de choses aujourd'hui sont prises par la mémoire technique, disons, de stockage des données. Et c'est, évidemment, ça présente beaucoup d'avantages. Mais il y a parfois des choses que je délègue au cloud ou en tout cas au serveur, en fait, que je ne porte plus en moi-même.
Donc, une forme de dépossession.
Voilà, de dépossession que je ne mobilise plus, à la fois au niveau intellectuel et culturel. Or, pour la pensée, c'est quand même essentiel d'avoir accès intérieurement et librement à des ressources qui m'habitent, qui sont importantes. Et dans la vie spirituelle et dans l'identité profonde, c'est fondamental. Je parle de l'histoire sainte. Et c'est assez frappant de voir chez les plus jeunes que souvent ils comprennent leur vie comme une succession de choses ou d'événements. J'ai fait, sans lien entre les événements. Et donc c'est ça la mémoire. Je construis ma vie comme une mémoire profonde, mais j'ai besoin pour cela de temps de recul pour faire le lien entre les événements. Et c'est ça qui constitue mon identité, qui fait que je vais pouvoir raconter qui je suis aujourd'hui à partir de ce que j'ai vécu. Et dans ce que j'ai vécu, il y a des choses qui m'ont marqué plus que d'autres. Mais ça, je peux y avoir accès qu'avec du recul et en me rendant compte que j'ai ça en moi qui m'a profondément marqué. Et ça, c'est pas les algorithmes qui vont me le dire.
Ah oui, ça c'est évident. Et c'est ce que vous appelez écrire son histoire sainte. Oui,
tout à fait. Mm. Ouais. Et ça, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est biblique, en fait, qui est biblique. Mais voilà, je peux avoir accès à mon identité en racontant mon histoire. Et raconter son histoire, c'est avoir besoin de prendre du temps pour me souvenir, pour faire mémoire et faire le tri entre les expériences heureuses et expériences douloureuses. Aujourd'hui, on valorise beaucoup le mot expérience.
Oui.
Mais à toutes les sauces. Et en fait, une véritable expérience, d'une part, une expérience n'est pas toujours heureuse, elle peut être destructrice. D'autre part, ne devient en sens fort une expérience que dans la mesure où elle est intégrée, relue et assumée. Sinon, en fait, c'est quelque chose qui m'a effleuré de façon superficielle.
Oui, et puis toute expérience aujourd'hui doit être absolument fantastique.
Oui,
avec des promesses de quelque chose de jamais fait.
Tout à fait, oui, mais là c'est un mirage.
Oui, c'est ça, oui, c'est un mirage. Tout ce chemin spirituel, caractérisé par une intériorité habitée, ne vise pas à nous désengager de notre temps, écrivez-vous, frère Jean-Alexandre. Vous invitez à évangéliser l'univers numérique. Alors évidemment, tout le monde n'est pas forcément appelé à ça, mais quel point de vigilance faut-il avoir ?
Le point de vigilance, c'est, je dirais, d'abord la prière comme condition pour pouvoir évangéliser, dans une sorte d'intériorité qui porte l'évangélisation. La prière aussi comme prière d'intercession pour le monde. Si je ne prie pas pour ceux vers qui je prétends aller, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait bien placé. La dimension de la fraternité et de la communauté, voilà, ne pas être seul quand je suis engagé sur Internet webmaster, influenceur ou un certain nombre de choses, parce que toute mise en avant implique des jeux de rapport à l'image qui sont présents et qui sont démultipliés par les écrans, qui viennent flatter mon ego avec ces cohortes de fans et ce genre de choses. Et il n'est pas si facile de pouvoir, sans fraternité, sans accompagnement aussi spirituel d'une manière ou d'une autre, voire psychologique, de pas tomber dans le panneau de la séduction, de l'idolatrie. Et on l'a vu dans un certain nombre de figures des années 70, mais encore aujourd'hui. Voilà, ce sont des vrais combats spirituels dans lesquels il y a des enjeux spirituels, de vie ou de mort, j'ai envie de dire. Et donc, il faut être extrêmement vigilant. Et on voit déjà les écrits de Sainte Thérèse d'Avila ou Saint Jean de la Croix, qui disait déjà à l'époque, au XVIe siècle, sans les écrans, ils ont vu des grandes figures se casser la figure, justement, par manque d'humilité, de discernement et de recul critique. Donc aujourd'hui, qu'on est d'autant plus exposé parce que ça démultiplie le nombre, mais aussi les écrans qui jouent sur l'image de soi, vous voyez, on a encore plus besoin d'enracinement personnel et communautaire de gens qui nous disent « mais là, t'es quand même en train de prendre un peu la grosse tête, quoi.
Oui. Il ne faut pas avoir ce risque de devenir un gourou, en fait. Faut des garde-fous.
Tout à fait. Ouais, exactement.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que l'usage du numérique peut nous donner une impression de puissance.
Ouais.
Vous invitez au contraire à assumer notre condition de créature. Vous nous avez parlé de l'acceptation de nos limites, hein, avec ce corps qui fait partie intégrante de notre être. Il y a un autre aspect important, c'est de ne pas réduire la vie humaine à une existence étriquée.
Oui, tout à fait. Je pense que ça rejoint les grands désirs dont on a évoqué avec Sainte Thérèse d'Avila, c'est que nous sommes faits pour quelque chose de large, de grand, avec cette vertu de magnanimité. Nous sommes appelés à de grandes choses. Donc, mais voilà, cette exigence large, grande et belle, donc qui implique de ne pas se désengager du monde et d'aller se cacher dans un coin, mais il s'agit justement, pour pouvoir se déployer à l'extérieur, je reviens à l'image de l'arbre que j'aime beaucoup, dans toutes ces branches, on a besoin de racines qui soient proportionnées et proportionnelles. Donc je dis, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux, mais les racines sont les conditions de possibilité du déploiement. Donc pour avoir cette vie qui n'est pas étriquée, qui est déployée, on a besoin d'une vie intérieure qui porte cette vie extérieure.
Et donc avec ses racines en Dieu.
Exactement.
Merci beaucoup, frère Jean-Alexandre de Garidel. Je rappelle le titre de votre livre, « Dieu crève l'écran, repère spirituel en temps d'hyperconnexion » aux éditions du Carmel. C'était Vivante Église, votre émission quotidienne de la vie chrétienne en Occitanie.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.